Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 11 août 2022. Jean-Roger Bion à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle Kigali et Kinshasa à cesser de soutenir des groupes armés en RDC. Élections au Kenya, les observateurs sont inquiets de la désinformation en ligne alors que le dépouillement se poursuit. Nouveau bilan après les émeutes en Sierra Leone, 6 policiers et 21 civils ont été tués lors de manifestations contre la vie chère. En Somalie, 1 million de personnes ont été déplacées à la sécheresse. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se trouve au Rwanda, dernière étape de sa tournée africaine. Il a appelé ce jeudi les gouvernements congolais et rwandais à cesser de soutenir les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Nani Talani.
Il existe des rapports crédibles sur un soutien aux groupes armés par toutes les parties, y compris les FDLR par les forces congolaises et le M23 par les forces rwandaises, a déclaré Anthony Blinken à l'issue de discussions avec le président rwandais Paul Kagame à Kigali. Notre position est claire, le soutien à tout groupe armé doit cesser. Il ne s'agit pas d'un groupe contre un autre. Le principe de base est qu'il ne devrait pas y avoir de soutien venant des gouvernements et des forces armées aux groupes armés comme le M23 et les FDLR, a ajouté le chef de la diplomatie américaine. Kigali a démenti soutenir le M23. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a refusé de commenter les propos de M. Blinken, évoquant des informations crédibles sur un soutien au M23. Il affirme que le problème fondamental des FDLR doit être traité pour parvenir à une solution durable dans l'est de la RDC. Le chef de la diplomatie américaine a aussi abordé le sort du héros du film Hôtel Rwanda, Paul Rusesabagina, qui purge une peine de 25 ans de prison pour terrorisme. M. Blinken a entamé une tournée africaine depuis dimanche. Il a d'abord été en Afrique du Sud et en RDC. Le Rwanda est sa dernière étape.
La République démocratique du Congo a enregistré près de 900 000 déplacés internes depuis le début de l'année à cause des violences dans l'Est, selon un rapport d'OCHA, Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Plus de 80% des déplacements des populations en RDC sont dus à des attaques et des affrontements armés provoqués par les activités illicites des groupes armés locaux et étrangers actifs dans cette partie du pays, indique le rapport. Au Kenya, le dépouillement se poursuit 2 jours après la présidentielle. Les deux favoris, William Ruto et Raila Odinga, sont toujours coude à coude alors que des observateurs internationaux ont mis en garde ce jeudi contre la désinformation sur Internet. Les précisions avec Abdourahman Dia.
Plusieurs ONG se sont inquiétées, disant que les réseaux sociaux ont été inondés de fausses informations sur l'issue du scrutin. Elles accusent les deux camps de colporter des messages fallacieux. Le laps de temps entre l'annonce des résultats officiels et ceux provisoires et parfois contradictoires annoncés par les médias sont une source d'inquiétude, a déclaré jeudi devant la presse le chef de la mission d'observateurs du Commonwealth, le Jamaïcain Bruce Golding. La désinformation et les incitations à la haine, en particulier en ligne, sont des appels à la violence par les hommes politiques et leurs partisans, a-t-il ajouté. Raila Odinga, figure historique de l'opposition qui a reçu le soutien du président sortant, et William Ruto, vice-président sortant, sont dans un duel très serré selon des décomptes provisoires et fluctuants des médias kényans. Tous les scrutins ont été contestés depuis 2002 au Kenya, donnant parfois lieu à des violences meurtrières. Mais cette année, les deux candidats favoris à la présidence ont promis d'accepter les résultats.
En Sierra Leone, des dizaines de personnes sont mortes lors de manifestations antigouvernementales, a déclaré aujourd'hui la police, augmentant fortement le bilan des affrontements de la veille. Les dirigeants ont annoncé hier un couvre-feu dans tout le pays. Les détails avec Rosine Monezero.
6 policiers et au moins 21 civils ont été tués. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues pour exprimer leur frustration face aux difficultés économiques et à l'incapacité perçue du gouvernement à atténuer l'impact de la hausse des prix. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des foules envahir des rues jonchées de débris calcinés et des colonnes de fumée. Le vice-président Mohamed Jules Diallo a déclaré dans une allocution vidéo que des civils et des membres des forces de sécurité ont été tués, mais il n'a pas précisé leur nombre. La manifestation est venue d'un groupe de femmes commerçantes qui a convoqué un rassemblement pacifique pour attirer l'attention sur les difficultés économiques et les nombreux problèmes qui affectent les femmes, selon une lettre adressée à l'inspecteur général de la police. Les dirigeants ont annoncé mercredi un couvre-feu dans tout le pays en réponse à cette vague de colère.
Le deuxième auteur du meurtre d'un jeune Français à la Miger en Côte d'Ivoire a été condamné hier à la prison à perpétuité, le premier ayant été tué par la police au moment de son interpellation. Le procureur de la République d'Abidjan avait publié plus tôt dans la semaine un autre communiqué indiquant que sur indication de l'homme condamné, la police était rendue lundi dans le quartier d'Adjamé à Abidjan pour procéder à l'interpellation d'un second malfrat. Le premier ministre éthiopien a démarré aujourd'hui une deuxième turbine sur les 13 prévues du méga barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil Bleu, dont le troisième remplissage se poursuit en dépit des protestations du Soudan et de l'Égypte en aval. Abiy Ahmed a encore tenté de rassurer Khartoum et le Caire en affirmant que l'objectif du grand barrage de la Renaissance n'est pas de leur nuit, mais de développer l'économie en produisant de l'électricité. En Somalie, la sécheresse a atteint un niveau sans précédent et causé le déplacement d'environ 1 million de personnes. L'alerte est donnée ce jeudi par l'ONU et le Conseil norvégien pour les réfugiés. Les précisions avec Mohamedou Mfa.
Plus de 755 000 personnes ont été déplacées cette année à l'intérieur de la Somalie en raison de la grave sécheresse qui frappe la corne de l'Afrique, selon le ICR et le NRC, Conseil norvégien pour les réfugiés. Cela porte à 1 million de personnes déplacées depuis janvier 2021, marquant le début de la sécheresse. Ce cap d'un million de personnes est un énorme signal d'alarme, a déclaré le directeur du NRC en Somalie, Mohamed Abdi, cité dans un communiqué. Nous voyons de plus en plus de familles obligées de tout abandonner car il n'y a littéralement plus d'eau ni de nourriture dans leur village. Il est urgent d'augmenter le financement de l'aide avant qu'il ne soit trop tard, a-t-il ajouté. En juin, le ACR avait annoncé avoir besoin de 9,5 millions de dollars pour aider les déplacés en Somalie. En outre, selon le ACR, le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire devrait passer de quelque 5 millions à plus de 7 millions dans les mois à venir, une situation exacerbée par les effets du changement climatique et la hausse des prix des denrées alimentaires en raison du conflit en Ukraine.
Et plusieurs personnes ont été tuées et des dizaines blessées ce jeudi dans la région séparatiste du Somaliland. La police a ouvert le feu sur des manifestants opposés au gouvernement. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de la capitale Hargeisa, mais aussi dans les villes de Bouraoué et Rigavo, après l'échec des négociations entre le gouvernement et les partis d'opposition. Ces derniers accusent les autorités de chercher à retarder l'élection présidentielle prévue au mois de novembre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée taïwanaise a procédé aujourd'hui à un nouvel exercice à munitions réelles après que Pékin, qui poursuit ses menaces, a mis fin à ses plus importantes manœuvres militaires jamais organisées autour de l'île. Les autorités ont minimisé la portée de ces exercices, assurant qu'ils étaient déjà programmés et n'étaient pas une réponse à ceux de Pékin. Kiev et Moscou se sont accusés ce jeudi de nouveaux bombardements à la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Ukraine et d'Europe, occupée par la Russie, l'opérateur ukrainien évoquant 5 frappes près d'un dépôt de substances radioactives. Un responsable pro-russe, membre de l'administration installée par Moscou dans cette région occupée au sud de l'Ukraine, a de son côté mis en cause sur Telegram les combattants. Le chef de l'ONU a mis en garde aujourd'hui contre une catastrophe à Zaporijjia. La journaliste russe Marina Ovsyannikova, célèbre pour avoir critiqué l'offensive en Ukraine en direct à la télévision, a été assignée à résidence ce jeudi dans le cadre d'une affaire pénale qui pourrait l'envoyer en prison, a annoncé le tribunal de Moscou. Accusée d'avoir discrédité l'armée, Madame Ovsyannikova risque jusqu'à 10 ans de prison. La haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, s'est dite ce jeudi alarmée par le nombre d'enfants palestiniens tués ces derniers jours et a demandé que les responsables rendent des comptes. Au cours de la dernière semaine, 19 enfants palestiniens ont été tués, portant à 37 le nombre de décès depuis le début de l'année, selon le Haut Commissariat. Et puis, un tribunal des Émirats Arabes Unis a condamné l'ancien avocat américain du journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi à 1,3 million d'euros d'amende pour blanchiment d'argent annulant une première condamnation à 3 ans de prison. L'Américain Asim Gafour avait été l'avocat de M. Khashoggi, dont le brutal assassinat en 2018 par des agents saoudiens a considérablement terni l'image de l'Arabie saoudite, proche alliée des Émirats arabes unis voisins. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Brazzaville organise la première édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo qui se tiendra jusqu'au 20 août. 5000 artisans de plusieurs pays dont le Sénégal, le Togo, la RDC, le Rwanda, la Guinée, le Niger prennent part à cette rencontre avec plus de 2 millions d'articles. Au programme, expositions, ventes, ateliers, rencontres, conférences, animations culturelles pour permettre aux participants de renforcer leurs liens professionnels en vue de l'éclosion du secteur artisanal. L'Afrique du Sud annonce avoir trouvé un accord pour mettre fin au blocage de ses tonnes d'agrumes dans les ports européens en raison d'un conflit commercial avec l'Union européenne. L'impasse a engendré plus de 12 millions de dollars de pertes. L'Afrique du Sud, deuxième exportateur mondial d'agrumes frais après l'Espagne, a déposé plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce en juillet quand l'Union européenne a introduit de nouvelles exigences phytosanitaires qui, selon les producteurs, menacent leur survie. Pour terminer, la justice tunisienne a prononcé un non-lieu pour les 7 membres de l'équipage du pétrolier Zelo qui s'était échoué en avril au large de la Tunisie où il s'était réfugié en raison de mauvaises conditions météorologiques. Le procureur de Gabès a fait appel. Selon Rafaa Tabid, spécialiste des trafics, le Zelo était une station-service flottante vendant illégalement des hydrocarbures aux nombreux navires transitant par le canal de Sicile.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Football, le Maroc se sépare de son sélectionneur.
Oui, la Fédération marocaine de football a annoncé s'être séparée à l'amiable de Vahid Halilhodžić en poste depuis 3 ans. Dans un communiqué, la Fédération évoque des divergences de points de vue au sujet de la préparation idoine des Lions de l'Atlas pour le Mondial. L'intransigeance du sélectionneur sur les cas Hakim Ziyech et Nusayir Mezraoui lui a donc été fatal. Fidèle à ses principes, le coach franco-bosnien dit ne vouloir que des joueurs qui donnent 100% pour l'équipe nationale. Il avait alors refusé de reprendre le milieu offensif de Chelsea, de même que l'arrière de l'Ajax Amsterdam, qui avait par le passé décliné la sélection. C'est la 3e fois de sa carrière que le coach Vahid est remercié après avoir qualifié une équipe au Mondial. Après la Côte d'Ivoire et le Japon, Vahid était à la tête de la sélection marocaine depuis août 2019, à 3 mois de la Coupe du Monde au Qatar, à laquelle les Lions de l'Atlas participeront. La fédération devra vite se trouver un sélectionneur. Le Maroc, versé dans le groupe F, sera aux prises avec la Croatie, la Belgique et le Canada.
Tennis, pas de miracle pour Serena Williams à l'Open de Toronto.
Au lendemain de l'annonce de sa prochaine retraite, la star américaine n'a pu s'offrir un sursis au WTA 1000 de Toronto, éliminée au 2e tour par la Suissesse Belinda Bencic. Serena Williams, qui avait remporté lundi son premier match de l'année, 6 semaines après son retour manqué à Wimbledon, a cédé 6-2, 6-4. Mardi, la joueuse de tennis de 40 ans a annoncé que le compte à rebours est enclenché. S'agissant de sa retraite des cours après 25 ans de carrière et 23 titres en Grand Chelem à son palmarès, son programme doit la conduire à partir de lundi à Cincinnati. Avant l'US Open prévu du 29 août au 11 septembre, elle a remporté 7 compétitions à 6 reprises et ce tournoi new-yorkais pourrait bien être l'endroit tout désigné pour ses adieux.
Un maillot de Michael Jordan proposé aux enchères.
Un maillot porté par la légende de la NBA lors de sa dernière saison 1997-1998 avec les Chicago Bulls va être proposé aux enchères en septembre pour 3 à 5 millions de dollars. C'est ce qu'a annoncé Sotheby's, la maison new-yorkaise de vente aux enchères. La vente aura lieu à New York du 6 au 14 septembre. Le fameux maillot rouge flanqué du numéro 23 des Chicago Bulls, porté par Jordan, sera présenté au public de Monterrey en Californie du 17 au 20 août, puis à New York durant les enchères de septembre, selon un communiqué de Sotheby's. 6 fois champion NBA avec les Bulls de Chicago, inspirateur de la ligne de basket Air Jordan de Nike, propriétaire des Charlotte Hornets, le natif de New York est considéré comme l'un des plus grands sportifs de tous les temps.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour le dossier du jour. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite au Rwanda a indiqué que tout soutien au groupe qui perturbe la sécurité de la région doit cesser. Il a fait cette indication au terme d'un entretien avec le président rwandais Paul Kagame ce jeudi. De Kigali, le compte-rendu de Jean Damascène Manishimwe.
La deuxième journée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Rwanda a débuté par un entretien avec le président Paul Kagame. Le diplomate américain a révélé qu'il a évoqué avec le président rwandais le cas de Paul Rusesabagina détenu au Rwanda.
Nous continuons à demander au gouvernement de considérer nos inquiétudes sur le respect de ses droits et faire en sorte que des cas similaires ne se produisent plus dans l'avenir.
À ce propos, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a martelé que la position du Rwanda est la même. Rusesabagina a été reconnu coupable de terrorisme. Il doit purger sa peine.
La personne a été condamnée, une sanction lui a été infligée. Il est en détention et il va purger sa peine. Croire qu'il y a une pression qui va faire que les Rwandais se réveillent un matin et entendent dire que quelqu'un est libéré suite à la pression étrangère, ça n'existe pas.
À propos du rapport des Nations Unies qui accuse le Rwanda de soutenir le M23, le chef de la diplomatie américaine a fait savoir que son pays est pour une issue pacifique à cette crise.
Il y a
des preuves que le rapport a révélées selon lesquelles les deux parties soutiennent des groupes terroristes, qu'ils soient les FDLR, soutenus par l'armée du Congo, ou le M23, appuyé par le Rwanda. Notre position sur cette question est claire. C'est que ce soutien pour chaque groupe soit arrêté. Face à ces accusations, le Rwanda continue toujours de clamer son droit de défendre son territoire.
La présence des FDLR et l'étroite collaboration avec l'armée de la RDC ont été la cause la plus significative de l'insécurité et cela permet aux FDLR de mener des opérations terroristes sur le territoire du Rwanda, chose que le gouvernement du Rwanda ne peut jamais accepter.
Le passage du secrétaire d'État américain à Kigali en provenance de la République démocratique du Congo laisse planer l'espoir des discussions possibles pour surmonter les défis sécuritaires dans la sous-région, surtout que les États-Unis restent un partenaire clé de la RDC comme du Rwanda. Jean Damascène Manishimwe à Kigali pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Kigali au Rwanda sur 104.3, 24 heures sur 24.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les prisonniers qui croupissent dans les prisons de Beni et Butembo dans la province du Nord Kivu vivent dans des conditions exécrables. Frappés par la malnutrition, beaucoup d'entre eux tombent malades faute de soins. Une situation dénoncée par les organisations de défense des droits de l'homme qui invitent les autorités à prendre leurs responsabilités. Le reportage de notre correspondant Zanem Netizaidi.
Les prisons de Beni et de Butembo, dans la province du Nord Kivu, sont plus que surpeuplées. La prison de Beni, construite pour une capacité de 150 personnes, abrite maintenant plus de 800 détenus. Le directeur de la prison, Tongo Makelele, déclare qu'en ce moment, le centre de détention subit une rupture de produits alimentaires.
Je confirme exactement qu'il y a vraiment carence alimentaire et si vraiment il n'y a pas de soutien par rapport aux différentes autorités et aux ONG, vraiment nous allons assister au pire.
Beaucoup de détenus sont malades en raison d'une situation alimentaire et ils sont frappés par la malnutrition. À Butembo, la situation est pire. La diarrhée est devenue une maladie presque chronique pour les prisonniers. Le mois dernier, certains sont morts faute de soins médicaux, selon Aubin Louhavo, directeur de la prison de Butembo.
Nous connaissons ce problème de prise en charge des détenus. La mauvaise alimentation crée la malnutrition aiguë chez les détenus. Les mois passés, nous avions enregistré des cas de diarrhée et 3 sont morts suite à cette maladie.
Angelus Kavuti-Rouaki, de l'Organisation de défense des droits de l'homme, s'insurge contre la léthargie des autorités en matière d'alimentation et des soins médicaux pour ces détenus.
Donc depuis un certain temps, tantôt c'est la CSR qui intervient et le gouvernement provincial qui intervient à SWAP. Donc la situation n'est pas bonne. Mais le problème, les difficultés, c'est souvent au niveau des soins.
Dénonçant ces conditions inhumaines dans lesquelles se trouvent les prisonniers dans l'est du pays, cet activiste demande aux autorités de respecter les vies humaines en offrant aux prisonniers de meilleures conditions.
Donc nous demandons aux autorités que les gens qui sont en prison, ce sont les personnes humaines qui ont les mêmes droits que nous qui sommes à l'extérieur de la prison. Donc ils ont les mêmes droits et l'État a l'obligation de les assister dans les conditions où ils se trouvent.
Selon le rapport de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, les prisons de la République démocratique du Congo sont hors normes. Elles sont considérées comme des lieux de misère en raison des conditions inhumaines dans lesquelles vit la population carcérale. En plus des conditions difficiles, les prisonniers sont susceptibles d'être attaqués à tout moment par les groupes rebelles de la région. Le cas le plus récent a été l'attaque de la prison de Butembo par des hommes lourdement armés, identifiés selon l'armée à des rebelles Maïmaï. Des policiers ont été tués et près de 800 prisonniers ont pris le large et sont partis dans la nature. Zanem Netizaï Diagoma pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
À Genève, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale se penche dès aujourd'hui sur la situation aux États-Unis après des siècles de racisme que Washington a reconnu comme étant systémique. Pendant 2 jours, ce comité onusien composé des 18 experts va entendre des responsables américains, des défenseurs des droits humains et des ONG pour déterminer si Washington respecte ses obligations internationales en matière de lutte contre la discrimination raciale. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint Marilyn Sefok, professeur à Howard University ici à Washington.
Je pense que c'est une excellente approche de la société civile. Ça permet aux États-Unis de se remettre en question. Ça permet au gouvernement américain de se pencher sérieusement sur les questions de réparation et de voir comment endiguer le racisme systémique.
Cette réparation prendrait quelle forme selon vous?
Alors, il y a plusieurs formes de réparation. Comme on sait, il y a des questions vraiment très tangibles, comme par exemple ce que l'on appelle aux États-Unis le redlining, c'est-à-dire que pendant un certain nombre de temps, pendant un certain nombre de siècles, on a concentré les Noirs dans une certaine partie des villes. Et ceci a été fait de façon répétitive dans pratiquement toutes les villes des États-Unis. Et donc, il y a énormément de choses à faire en matière de logement, en matière d'accès à la propriété. Et aussi, les banques devraient y mettre de le leur en donnant plus facilement accès aux prêts aux Noirs américains, parce que tout un chacun sait qu'obtenir un prêt pour un logement, c'est l'une des choses les plus difficiles aux États-Unis pour beaucoup de Noirs américains. Donc déjà, c'est des approches très concrètes. En matière d'éducation également, pendant des décennies et des décennies, les Noirs n'avaient pas accès à l'éducation tertiaire. Et c'est donc la raison pour laquelle beaucoup de HBCU, c'est-à-dire d'universités historiquement noires, ont été créées, tels que Howard University, Spelman, Morgan, etc. Et donc déjà, en matière d'éducation, en matière de logement, il y a des choses à faire. Et beaucoup sont contre une distribution simplement d'argent aux foyers noirs, mais ça devrait aussi être mis sur la table.
L'organisation américaine ACLU a reconnu que l'administration Biden a montré qu'elle pouvait nommer le problème, mais l'organisation demande des mesures plus audacieuses. Au regard de la configuration politique actuelle, quelles sont les marges de manœuvre à la disposition du président Biden?
Alors évidemment, les marges de manœuvre à la disposition du président Biden sont très restreintes parce que le pays est extrêmement polarisé et politiquement. Le pays est divisé, comme vous savez, entre républicains et démocrates, mais les tensions se sont avivées durant les dernières années. il y a une certaine polarisation sur l'échiquier politique américain. Donc, ça va être assez difficile, je dirais même délicat, de la part de l'administration Biden de mettre en place ce type de réforme. Toutefois, ce sont des réformes nécessaires qui devraient être précédées par toute une information au public avec des chiffres à l'appui, des statistiques montrant bien comment la situation de beaucoup de Noirs aux États-Unis est le résultat d'une politique de racisme, d'un racisme systémique qui dure depuis déjà bien des décennies, voire des siècles.
Depuis qu'il est à la Maison-Blanche, il a quand même fait des choses importantes.
Oui, absolument. L'administration Biden s'est attaquée à la pauvreté avec beaucoup de programmes. Il reste toutefois à attaquer la question historique de façon encore plus prononcée.
Marilyn Sefolk, professeure à Howard University à Washington, D.C. Ici aux États-Unis, l'attaque du 6 janvier contre le Capitole occupe une place importante dans l'État du Wyoming, dans l'ouest du pays. Liz Cheney, la représentante républicaine de cet État, risque de perdre son siège au Congrès pour avoir participé à une enquête sur l'ancien président Donald Trump. Du Wyoming, notre correspondante au Congrès, Catherine Gibson, explique pourquoi cet État est un test sur ce que les électeurs américains pensent de l'ancien président. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Le Wyoming, État le moins peuplé des États-Unis, est solidement républicain depuis des décennies. Mais au cœur de ses montagnes et ses villes rurales, deux candidates sont en désaccord sur l'ancien président Donald Trump. Liz Cheney.
Donald Trump a fait le choix délibéré de violer son serment, d'ignorer la violence en cours contre les forces de l'ordre, de menacer notre ordre constitutionnel. Il n'y a aucun moyen d'excuser ce comportement.
Représentante du Wyoming depuis 2017, Liz Cheney a été l'une des rares dans le camp républicain à dénoncer Trump, à voter pour sa mise en accusation l'année dernière et à co-présider la commission d'enquête du Congrès sur l'attaque du 6 janvier contre le Capitole. Même si elle est la fille d'un ancien vice-président républicain, Liz Cheney a été expulsée du Parti républicain du Wyoming pour sa position sur Trump. L'ancien président soutient sa principale concurrente au sein du parti, l'ancienne avocate Harriet Hyman. Les deux candidates s'affrontent sur Donald Trump dans leur débat. Liz Cheney.
L'élection n'a pas été volée. Elle sait qu'elle n'a pas été volée. Je pense qu'elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas été volée parce qu'elle est complètement redevable à Donald Trump.
L'ancien président soutient sa principale concurrente au sein du parti, l'ancienne avocate Harriet Hyman. Les deux candidates s'affrontent sur Donald Trump dans leur débat.
Nous avons un comité au Congrès en ce moment qui se concentre sur quelque chose qui s'est passé il y a 18 mois. Il ne se concentre pas sur les problèmes qui sont importants pour les habitants du Wyoming.
À l'approche de la primaire du parti la semaine prochaine, un sondage montre que la plupart des électeurs du Wyoming se rangent du côté de Hyman.
Cheney vient de franchir la ligne sur trop de choses et vraiment, elle ne vit pas dans le Wyoming. Elle ne l'a pas fait depuis longtemps et je ne pense pas qu'elle représente les valeurs du Wyoming.
Elle ne peut pas aimer Donald Trump. Elle peut faire tout ce qu'elle veut pour essayer de l'amener là où il ne peut plus se représenter à cause du 6 janvier ou quoi que ce soit à propos de tous ces non-sens. Mais les électeurs de Wyoming défendent Trump. La majorité les soutient fermement.
Mais d'autres électeurs du Wyoming disent que Cheney représente les vraies valeurs républicaines.
Nous avons besoin d'une leader comme Liz. Je pense qu'il est important pour nous de regarder ce qui s'est passé à la fois avec la présidence Trump et ensuite le 6 janvier. Et je pense que la vérité doit vaincre les mensonges. Je crois que c'est ce qu'elle essaie de faire, c'est de découvrir la vérité.
Cheney is being stepped on by Trump.
Cheney est piétiné par Trump, ce qui est mal à tout point de vue. Je n'aime pas Hageman, je ne sais pas ce qu'elle a fait.
Donald Trump a remporté sa plus grande victoire aux élections de 2020 dans le Wyoming avec 70% des voix. La députée Liz Cheney mène donc un combat difficile à gagner.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.